pas là pour dire que j'ai pas envie de travailler, au contraire. Donc l'excuse de dire qu'on est là pour faire les flemmards, non.
Flemme dans l'enseignement, les profs sont déterrés, l'école à la Hesse. Oh mon Dieu, ça y est, le 17h parle comme s'il avait 15 ans, alors que ça ne sert à rien.
Cette journée de tension, Hélène, vous nous la racontez.
C'est le matin, il continue de pleuvoir en crachant sur cette drôle de fin de mois de mai devant un Athénée déterbé que les élèves crient leur colère.
Gladini, casse-toi, l'école publique est pas à toi. Gladini, casse-toi, l'école publique est pas à toi.
Il et elle se préparent, élèves et profs, à partir vers le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles où doit avoir lieu le vote sur le décret programme, le texte qui contient les réformes et les économies qui attisent la colère dans l'enseignement, notamment les 2 heures supplémentaires à donner dans le secondaire supérieur.
Au même moment, une conférence de presse se prépare.
La presse est invitée dans la précipitation. Il est midi par la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth De Grise, et par la ministre de l'Enseignement, Valérie Glatigny. Elles veulent rassurer les enseignants qui ne sont pas nommés et qui risquent de perdre des heures en clarifiant les choses.
L'enseignant temporaire qui aurait peur de perdre des heures parce qu'une personne nommée passe de 20 à 22 périodes et donc lui prend ses heures, si au terme du mécanisme de réaffectation, il avait perdu ses heures, eh bien on va geler la situation jusqu'à la fin de l'année prochaine pour qu'il ne perde pas son emploi.
Je ne sais pas, à vous de voir si les choses sont clarifiées.
Pendant ce temps-là, les enseignants, les étudiants, les élèves affluent vers le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il est 14h, le vote doit démarrer à l'intérieur du Parlement alors que des milliers de personnes hurlent à l'extérieur. La police a sorti les chevaux de frise et les autopompes. On va tout de suite faire le point sur ce qu'il se passe à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement. On retrouve d'abord Tidiem Kouach. Vous êtes juste à l'extérieur du Parlement en ce moment.
Oui, la situation s'est bien tendue ici en milieu d'après-midi. On le sentait que ça pouvait déraper à tout moment. Des jeunes galvanisés par le dispositif policier à balancer des pétards, des feux d'artifice et des œufs. Les 2 autopompes de la police postées de chaque côté des manifestants ont arrosé une partie d'entre eux. La police a également chargé et donné l'ordre aux manifestants de redescendre vers la gare centrale de Bruxelles. La police est parvenue à faire reculer le monde enseignant à coups de gaz lacrymogène. Les enseignants sont désormais à une 50aine de mètres du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, toujours là pour mettre la pression avant le vote du décret programme.
Et que se passe-t-il pendant ce temps-là à l'intérieur du Parlement? On y rejoint là Corentin Laurent. Bonjour Corentin, comment ça se passe?
Oui, bonjour Hélène. Ici, les débats sur le fond, sur le texte viennent à peine de commencer. Alors oui, c'est vrai, la séance plénière a bien débuté à 14h, mais ça a beaucoup discuté de procédure jusqu'à présent. Parce que pour l'opposition, la majorité n'a pas respecté le règlement du Parlement en organisant la plénière aujourd'hui. Concrètement, c'est trop tôt par rapport à ce que disent les règles. Alors l'opposition est échaudée, galvanisée aussi par la foule qui est dehors. C'est vrai que quand on est dans les couloirs, on les entend assez bien. Et de l'autre côté, eh bien, la majorité veut faire passer ses réformes le plus vite possible. Alors au final, ça donne des échanges assez tendus ici au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des échanges qui pourraient durer jusque très tard ce soir.
La soirée promet en effet d'être longue.
Il y a une dernière chose à dire avant de refermer ce fil info.
Oui, on a appris autour de 16h qu'en France, dans le Gers, un corps a été retrouvé dans la commune de Florence. La famille de Liana, la fille de 11 ans qui a disparu depuis une semaine, a été informée de cette découverte. Le corps a été retrouvé à proximité du lieu de la disparition. Plus d'informations sans doute dans le journal de 18h.
C'était le fil info de la journée. Si vous avez écouté le journal de 8 heures ce matin, vous avez peut-être entendu ceci.
Tous les pays membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert pour ouvrir un premier chapitre de négociation d'adhésion avec l'Ukraine.
Ça alors, ça veut dire que tous les pays européens sont d'accord pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Alors ce matin, je me suis dit que je n'étais pas certaine d'avoir tout à fait bien compris cette information. Du coup, j'ai demandé à Sandro Calderon, qui est un de nos spécialistes Europe à la rédaction, de bien tout nous réexpliquer. Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine va bientôt adhérer à l'Union européenne? Voilà ce qu'il m'a répondu.
Bon Hélène, on ne s'emballe pas. Hein. Ce n'est pas demain la veille que les Ukrainiens entreront dans le club européen. Même si Kiev voudrait que ça aille vite, le processus risque d'être long. Cela dit, il y a tout de même une bonne nouvelle aujourd'hui pour les Ukrainiens. C'est que le dossier d'adhésion de leur pays va avancer. La semaine prochaine, les Européens vont enfin ouvrir le premier chapitre de négociation. Et si je vous dis enfin Hélène, c'est parce que tout est bloqué depuis des années. Rappelez-vous, il y a 3 ans, l'Ukraine avait reçu le statut de candidat de manière manière exceptionnellement rapide. Malgré la guerre d'agression russe, Kiev a ensuite lancé les réformes requises pour rejoindre l'Union européenne. Mais les négociations n'avançaient pas à cause d'un homme, Viktor Orban, l'ex-premier ministre hongrois, l'ami de Vladimir Poutine. Cela dit, la donne a changé maintenant avec l'arrivée au pouvoir à Budapest du dirigeant pro-européen Peter Magyar. Hier, il a annoncé un accord avec Kiev sur la protection des 100 000 Hongrois qui vivent en Ukraine. C'est cet accord qui va remettre le processus d'adhésion de l'Ukraine sur les rails. Mais je vous le dis, le voyage vers l'Union européenne s'annonce long, peut-être même très long.
Merci Sandro pour ces explications. On a appris aujourd'hui la mort de Marjane Satrapi.
Oui, l'autrice de bande dessinée franco-iranienne est morte de tristesse un peu plus d'un an après le décès de Mathias Ripa, son mari et l'amour de sa vie. C'est ce qu'indique un communiqué envoyé par ses proches à l'agence France Presse. Le nom de Marjane Satrapi est indissociable d'un titre iconique de la bande dessinée Persepolis, publié en 2000, vendu à plus de 4 millions d'exemplaires.
Je me souviens, à cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille. J'adorais les frites avec du ketchup, Bruce Lee était mon héros préféré, je portais des Adidas et j'avais deux grandes obsessions. Pouvoir me raser un jour les jambes et devenir le dernier prophète de la galaxie.
Quand les traits et les aplats noirs sur fond blanc sont apparus dans Persepolis en quelques pages, Marjane Satrapi nous a emmenés derrière le mur érigé par la dictature des Mollahs en Iran. Pour les ados, les jeunes adultes des années 2000, comme moi, Marjane Satrapi a montré à quel point nous étions finalement semblables à ces Iraniennes qui nous semblaient si loin.
Moi, je raconte l'histoire d'un pays à travers mon histoire à moi, puisque je ne suis ni politicienne, ni historienne, ni je n'ai ce genre de prétention. Pour raconter une grande histoire, je suis obligée de le raconter par ma petite histoire.
La chute du Shah, l'arrivée des Mollahs au pouvoir, la vie qui se tend, qui se courbe sous le poids de la religion, une question qui traverse Persepolis.
Moi, j'ai toujours une foi, je crois à des choses. Et la religion, si elle est encore présente aujourd'hui, c'est parce que c'est un besoin instinctif des hommes. Et je ne juge jamais personne pour sa croyance. C'est respectable. Là où la religion me pose une question, un problème, mais c'est à partir du moment où on veut infliger à l'autre notre façon de penser en disant « tu dois exactement penser comme moi ». Et ça, je ne suis pas d'accord. C'est l'intégrisme.
Face à la violence du régime iranien, Marjane Satrapi emploie dans Persepolis une expression qui est très belle.
Il y a cette expression en persan où on dit, d'ailleurs que je cite dans le livre, c'est quand il y a une grande vague qui vient, il faut baisser la tête et la laisser passer. Les Iraniens, donc par leur histoire, ils savent très bien que quand il y a une grande vague, ça sert à rien de rester debout. On se casse la tête, on peut se noyer. Alors que si on se penche un peu, on le laisse partir, après on nage. Et c'est là où il faut faire une rébellion.
Il y a tout juste un an, une immense vague a submergé Marjane Satrapi, le jour où son mari, Mathias Ripa, est mort brutalement. Qui sait aujourd'hui si Marjane Satrapi a tenté de nager ou si la tristesse l'a fracassée sur place alors qu'elle était encore debout.
Retrouvez toute l'info sur